Bonsoir Flavien Neuvy.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste, directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Et justement, si on a voulu ce soir être en ligne avec vous sur Europe 1, c'est pour parler automobile, puisque le quatrième groupe mondial d'automobiles vient de naître. Il est en partie français. Il s'appelle Stellantis. Alors si on dit ça comme ça, ça ne dit pas grand-chose à tout le monde. C'est la fusion entre PSA, donc Peugeot, Citroën, DS et autres, et le groupe Fiat qui compte également des marques aussi iconiques que Chrysler. Le président du conseil de surveillance de PSA, là encore pour quelques heures, Louis Gallois, dit « J'ai rarement eu le sentiment, autant qu'aujourd'hui, de vivre un moment d'histoire. Pour lui, c'est un peu la fusion des fusions. Est-ce que, oui, c'est une fusion à ce point-là intéressante pour les deux groupes ?»
Alors oui, c'est une fusion qui est à la fois historique, très ambitieuse de par sa taille et de par ce qu'elle va générer, c'est-à-dire le quatrième constructeur mondial avec 400 000 salariés. C'est une fusion gigantesque et qui en plus se fait de façon amicale. Il faut toujours rappeler ça, c'est que quand vous avez des rapprochements d'entreprise, vous avez deux possibilités, soit c'est une fusion amicale, soit c'est un rachat hostile. Et on sait que dans l'industrie automobile, les histoires passées ou d'échecs de fusion entre constructeurs ont souvent été dues à des opérations qui étaient jugées hostiles par l'un des deux constructeurs. Et dans cet univers-là, le fait que ce soit une fusion amicale est extrêmement important.
C'est vrai que quand on regarde l'histoire de l'automobile, les fusions réussies sont extrêmement rares. Là, malgré tout, qu'est-ce qui fait, au-delà du côté amical, que selon vous, ça pourrait être un mariage d'amour qui pourrait fonctionner ?
Alors il y a deux points. Le premier point d'abord, c'est l'expertise, l'expérience de Carlos Tavares qui a quand même réussi le rachat d'Opel en un temps record, en rentabilisant la marque, ce qui n'était pas le cas depuis des années avec son ancien propriétaire. Donc il y a un savoir-faire en matière de fusion qui est très important. Et puis le deuxième élément, c'est que c'est un mariage à la fois ambitieux, mais c'est aussi un mariage de raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industrie automobile, les défis auxquels elle doit faire face sont tellement importants qu'il faut de toute façon avoir la taille critique. Donc j'ai envie de dire que c'est le sens de l'histoire pour pouvoir répondre aux ambitions de demain, de la voiture plus propre, de continuer à se développer. Voilà, donc tout ça mis bout à bout fait que de toute façon, le groupe doit réussir cette fusion et réussira cette fusion.
Mais l'idée principale, c'est cela, c'est d'être plus gros pour réussir à faire face aux gigantesques investissements. On pense notamment à la batterie électrique, c'est-à-dire que quand on est un groupe aussi gros que va devenir Stellantis, on peut imaginer être dans la course mondiale.
Oui, c'est incontournable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça demande tellement d'investissements, tellement de milliards d'euros d'investissements, que si vous n'avez pas le nombre de voitures vendues en face en quantité suffisante pour amortir ces investissements, vous ne pouvez pas durablement être dans la course, d'être dans la compétition. Et aujourd'hui, enfin demain, avec cette fusion, ce nouveau groupe Stellantis aura la taille critique justement pour faire les investissements nécessaires. Néanmoins, il faut quand même rappeler un point, c'est que cette fusion avait été décidée avant la crise du Covid et cette crise sanitaire a fragilisé l'ensemble du secteur automobile avec un plongeon des ventes. Donc ça se fait dans un contexte qui est encore plus difficile, si je puis dire, sur le plan économique pour les deux constructeurs, mais pour l'ensemble du monde de l'industrie automobile.
Oui, et puis c'est à l'issue de cette crise, les deux constructeurs ne sont pas du tout de la même façon. PSA a résisté de façon assez extraordinaire à cette crise, n'a par exemple pas eu besoin des financements publics ou des prêts publics en France. Ce n'est pas le cas tout à fait de Fiat. Ça va être très compliqué. Vous disiez par exemple que Carlos Tavares, le patron de PSA, a su restructurer Opel. Là, ça ne passera pas du tout de la même façon en Italie. Il n'est pas question de fermer d'usine, par exemple.
Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, dans ce type de rapprochement, les pouvoirs publics sont très attentifs, évidemment, et c'est logique, à l'emploi et au maintien des sites industriels. Donc forcément, ça se fera de façon... les synergies de coûts se feront progressivement et de toute façon, en limitant, si je puis dire, la casse sociale. C'est pas du tout l'objectif de cette fusion. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a Fiat qui était fragilisé avant même cette fusion. La crise, encore une fois, l'a encore plus fragilisé, alors que PSA a été redressé et sortait quand même d'une très mauvaise passe, il faut le rappeler. En 2012-2014, c'était une période extrêmement difficile pour le groupe PSA. Carlos Tavares a redressé les finances du groupe avec une marge opérationnelle tout à fait spectaculaire. Et aujourd'hui, le nouvel ensemble va pouvoir affronter tous ces défis en étant plus gros et mieux armé, si je puis dire, pour pouvoir répondre à tous ces défis, sachant quand même que c'est un groupe qui dépend beaucoup du marché européen, qui lui a plus souffert que le marché chinois, par exemple, ou que le marché américain de la crise sanitaire.
Oui, parce que quand on écoute ce matin, notamment du côté de l'Assemblée générale de PSA, on nous dit c'est bien parce que les deux groupes vont être très complémentaires. Fiat Chrysler est plus présent en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Nous, PSA, on est plus présent en Europe. Il n'en reste pas moins que c'est un groupe avant tout européen. Si on regroupe Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Alfa Romeo, et on pourrait en citer encore d'autres comme ça.
Oui, c'est un groupe qui est avant tout européen. Alors c'est vrai que pour PSA, ça permet quand même le rachat, enfin la fusion avec Fiat, d'avoir une implantation aux États-Unis qui reste le deuxième marché mondial avec des grosses voitures qui sont vendues avec des marges importantes, avec des marques qui sont emblématiques. On pourrait citer Jeep par exemple. Donc pour PSA, c'est intéressant. La vraie question au fond qu'on peut se poser quand même à moyen long terme, c'est de savoir si ce nouveau groupe aura les moyens à la fois d'investir les milliards d'euros nécessaires en Europe pour faire la voiture électrique, puisque c'est le choix qu'a fait l'Europe, hein, l'électrification des véhicules, et continuer à être présent durablement aux États-Unis, où là, il faudra encore quand même investir dans les moteurs thermiques parce que ce sont des gros pick-up, des gros 4x4 qui, eux, fonctionnent encore avec des moteurs thermiques. C'est ça, c'est la vraie question, mais elle ne se pose pas demain matin, mais à moyen long terme, je pense que c'est une question qui restera posée.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un véritable moment d'histoire que vit en ce moment le secteur automobile. C'est-à-dire qu'en quelques années, il va devoir réussir la révolution de l'électrique, la révolution de la voiture autonome, et tout ça, c'est inédit.
Oui, c'est inédit. Je pense vraiment que l'industrie automobile est à un tournant historique. Il faut faire attention quand même, hein, d'une façon générale, aux réglementations et aux normes que l'on fait appliquer aux constructeurs, ne pas vouloir aller trop vite non plus parce que ça les fragilise. Il faut rappeler que la voiture électrique sont des voitures qui sont plus chères pour les automobilistes, donc c'est subventionné par l'État qui verse des primes, mais en plus ce sont des voitures qui rapportent moins aux constructeurs, hein, moins de marge. Donc il faut faire très attention parce que l'outil industriel...
Et qui ont toutes limites écologiques puisque pour le moment, on n'a pas encore véritablement créé de filière de recyclage, notamment des batteries.
Des batteries, pas de filière de recyclage pour le moment, ou pas beaucoup, et des batteries qui sont importées d'Asie. Donc il faut faire attention, notamment aussi aux équipementiers. Donc c'est un écosystème qui reste fragile. Néanmoins, la France fait partie des rares pays dans le monde à avoir deux constructeurs de taille mondiale, Stellantis maintenant, et puis bien sûr Renault-Nissan. C'est vraiment une chance inouïe pour notre pays, qui a beaucoup désindustrialisé sur ces 40 dernières années, mais on a une filière automobile qui reste forte et très structurante pour l'industrie, et pour l'économie de notre pays.
Eh bien, merci pour tous ces détails. Flavien Neuville, le directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile, était notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20.